RCF.
On est toute cette semaine en train d'essayer de comprendre ce qu'est l'âme humaine dans l'histoire de la spiritualité chrétienne et on le fait avec vous, Père Jean-Baptiste Masson, bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, vous êtes curé à Villeneuve-d'Ascq et puis vous enseignez à la faculté de théologie de Lille des journées d'études sur l'âme humaine justement, sur l'âme et sur l'âme chrétienne. Alors on va voir aujourd'hui comment est-ce que ça résonne chez les mystiques réno-flamands. C'est un vocabulaire, comment la question pour eux ça va être d'exprimer l'inexprimable finalement. Comment est-ce qu'on peut parler de l'âme? Comment est-ce qu'on peut parler de ce qui est imperceptible?
Alors là, on est au XIVe siècle, on est aussi chez les dominicains. Donc à la suite, Saint Thomas d'Aquin, c'est le XIIIe siècle, à la suite de Saint Dominique. Et on arrive un petit peu plus tard, donc dans cette spiritualité chrétienne qui est sortie du cloître. On avait vu chez les cisterciens notamment, c'est beaucoup dans les monastères qu'on trouve Dieu dans l'intériorité du cloître. Et ici, donc, ça correspond à ce besoin du peuple de Dieu aussi de retrouver accès à une spiritualité, voilà, vécue. On est dans les paroisses, on est dans des sermons, c'est très intéressant, on a les sermons de Maître Eckhart qui sont en allemand. En allemand de l'époque, c'est-à-dire que on est vraiment dans la diffusion d'une spiritualité donc au tout venant.
C'est-à-dire que Maître Eckhart va faire la révolution en quelque sorte, déjà un, d'aller parler à des femmes, et puis en plus de leur parler dans leur langue natale, et ça c'est vraiment nouveau.
Oui, c'est nouveau. C'est pas en latin, c'est nouveau. Alors du coup, ça lui a fait des problèmes parce que du coup, il y a des outrances de vocabulaire, il y a de l'imprécision. Et on est dans une époque où on cherche vraiment la pure doctrine et la précision théologique. Donc il va être accusé, puis blanchi d'hérésie. Hein. Mais donc aujourd'hui, c'est une pensée qui est tout à fait accueillie dans sa beauté et qui va continuer malgré la condamnation de certaines thèses de Maître Eckhart que lui-même avait pas vraiment soutenues. Eh bien, ça va continuer par ses disciples à se diffuser. Alors, on est dans une pensée vraiment mystique, c'est-à-dire que c'est l'attention au mystère. Alors, le père de l'Église auquel on se réfère le plus, c'est le pseudo Denis l'Aréopagite. On l'a attribué à Denis l'apôtre, dont on parle dans l'Évangile, un texte qui est en réalité du IVe siècle et qui est un recueil de textes sur l'expression du mystère de Dieu comme impossible à exprimer. Vous voyez, on est dans le paradoxe de la mystique, c'est-à-dire que dès qu'on parle de Dieu, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut dire. Et donc, il est au-delà de la rationalité, de la pensée.
Au-delà des mots.
Au-delà des mots. Et donc, du coup, on met l'accent sur ce que Saint Bernard avait induit. Il avait parlé d'une petite étincelle dans l'âme. Cette petite étincelle qui est en fait du divin qui est présent dans l'âme, mais qui est au-delà des réalités de la pensée, de l'intelligence, de la mémoire, qui est au-delà des facultés rationnelles de l'homme.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
On pourrait dire aujourd'hui comme une sorte de connexion directe.
Oui, une connexion directe au-delà du sensible. Et donc, à partir de cette connexion, si on reprend cette image, se diffuse dans l'âme énormément de choses. Se diffuse les grâces de Dieu, les vertus, se diffuse la foi, l'intelligence, la charité. Donc, du coup, on ajoute en quelque sorte un registre. Vous voyez, dans la compréhension de l'âme, on parlait de son corps et de ses facultés intellectuelles, de son esprit. Et donc là, on va parler d'un au-delà. Donc, on va mettre l'accent sur cette fine pointe de l'âme, ou cette étincelle de l'âme qui a une fonction morale, c'est-à-dire que dans l'homme il y a une petite lumière qui va le guider toujours, et Maître Eckhart dit même en enfer elle ne s'éteint pas, c'est-à-dire que cette étincelle de l'âme elle apporte toujours son secours quelle que soit l'obscurité du cœur humain. Et donc on va parler de petite étincelle, en quelque sorte la petite étoile qui conduit au soleil nouveau, à la grande étoile qui est le Christ ressuscité qui va se lever dans l'âme. Et donc cette petite étincelle de l'âme, le vocabulaire théologique, on parle de Saint-Dérèse ou Saint-Thérèse, c'est-à-dire que c'est un secours qui fait que quelque part au fond de son cœur, l'homme, même s'il est perdu, il désire toujours le bien, il désire toujours Dieu. Il n'est jamais totalement coupé et il y a toujours une présence de Dieu dans l'âme humaine. Et alors, ça va polariser, si vous voulez, toute la compréhension de l'âme humaine qui va vers cette lumière, qui perçoit de façon très ténue au fond lui-même.
Mais comment est-ce qu'on y va vers cette lumière ? Parce que on a bien compris qu'on pouvait développer cette recherche de Dieu, j'allais dire par les pieds, par le pèlerinage. On a bien compris qu'on pouvait aussi la trouver par la prière, et donc là c'est aussi la volonté. Comment est-ce qu'on accède à ce troisième stade dont vous parlez, qui serait cette présence de Dieu directe d'une certaine manière ? On a le sentiment que pour les mystiques, ça a été un effort considérable et que donc ce serait réservé à une petite partie de la population qui va faire maintes efforts, maintes ascèses pour y parvenir. Ou bien est-ce que, comme vous le disiez, même dans les ténèbres, pour chacun de nous, il est possible d'accéder directement à Dieu ?
Alors, c'est pas du tout de l'élitisme, parce que tout être humain est à l'image de Dieu. Et donc, ce qu'on dit, c'est que tout être humain a ce secours de Dieu en lui. Et donc, après, les auteurs spirituels vont développer la façon de se remettre à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, on fait des efforts pour avancer vers Dieu et on passe de ce que nous faisons pour aller vers lui à ce que Dieu fait en nous. Alors, vous avez trois manières de le représenter. Ce qui sont intéressants, c'est de dire, alors, chez Maître Eckhart, c'est beaucoup un fond. C'est-à-dire que l'homme doit, dans son fond, doit rejoindre Dieu. Donc, au fond de lui-même, il y a cette présence de Dieu. Donc, on parle de la pointe de l'âme et aussi du fond. Mais on veut dire la même chose. Hein. Donc, c'est-à-dire, donc lui, il va beaucoup insister sur le fond en disant, il y a un moment, on arrive à cette communion à Dieu dans son fond. Et donc, c'est un abandon de nous-mêmes à Dieu et on se repose plus sur nos forces humaines, mais on est cet être abandonné à Dieu, au-delà de tout. Donc, alors, il va parler d'un néant de Dieu, c'est-à-dire, c'est un néant au sens où c'est plus nos facultés humaines qui agissent, mais c'est la pure action de Dieu en nous. Alors, donc chez lui, c'est le fond. Chez Thérèse d'Avila, un peu plus tard, c'est le centre. Elle parle d'un château de l'âme, et donc l'homme, il vit à l'extérieur de lui-même, et il va chercher à entrer de plus en plus en lui-même, en vivant cette purification. Et au cœur du château, il y a la présence de Dieu. Donc là, on est aussi dans la spiritualité de l'épousaille. Et quand il s'agit de vivre cette union avec Dieu, et il y a un moment où l'âme vit cette épousaille mystique avec Dieu, où on est au centre de soi-même, on a découvert, on est en communion avec cette présence de Dieu. Et c'est une grâce qui est donnée aussi. Et alors, elle développe ces deux images du jardin et du château. Le jardin, c'est aussi pour dire qu'on fait des efforts au début pour arroser le jardin, c'est-à-dire on commence par nous-mêmes par faire des efforts, et c'est lourd et c'est difficile, c'est les débuts de la vie spirituelle. Et puis vient la fontaine, on fait de l'irrigation, et puis c'est plus facile, et puis il y a la pluie. Et donc progressivement, quand on avance vers la vie spirituelle, c'est de plus en plus l'action de Dieu en nous. Donc après, elle reprend ça dans l'image du château en disant, au cœur du château, au cœur de notre âme, c'est Dieu qui agit et qui diffuse ses grâces en nous.
Voilà. Et en dehors et donc, de
Saint-Thérèse. On parle du fond de l'âme, on parle du centre de l'âme, et puis la troisième image qu'on verra un peu plus tard avec François de Sales, c'est plus développé, déjà exprimé dans le vocabulaire, c'est la pointe de l'âme, c'est-à-dire que là on est vraiment sur le sommet. Mais c'est intéressant de voir qu'on se représente l'âme avec cette réalité d'une présence de Dieu en nous, qui peut être exprimée comme un fond, comme un centre ou comme une pointe, mais c'est la même réalité.
Je voudrais revenir sur une expression que vous avez utilisée à propos de Sainte-Thérèse d'Avila, qui est celui des épousailles, c'est-à-dire, donc on comprend bien, Sainte-Thérèse, femme, qui rejoint le Christ dans une union. Ça veut dire quoi pour l'homme, du coup ? Comment est-ce qu'il peut trouver sa place, lui ?
Alors, il faut se rappeler que le texte de référence sur lequel on revient toujours, c'est que hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Et donc, il y a une existence de l'âme humaine antérieure à la différenciation sexuelle. C'est-à-dire qu'on est en relation avec Dieu, homme et femme, et en quelque part, il y a une masculinité, une féminité qui est marquée dans l'être humain, donc dans sa relation à Dieu.
Donc vous diriez que l'âme n'est pas genrée ? L'âme n'est ni masculine ni féminine.
L'être humain, quelque part, il y a une unité du genre humain, et donc dans la spiritualité, on va retrouver quel que soit le genre, homme ou femme, on va retrouver un pôle masculin et un pôle féminin. Et donc, il y a l'être humain devant Dieu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la spiritualité, on va avoir l'image des épousailles, elle va s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et vous avez aussi une virilité qui est appliquée aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et donc, quand on lit ça, c'est des textes qui aujourd'hui peuvent nous rebuter un peu, mais par exemple...
Le mot virilité est utilisé.
On utilise beaucoup le mot virilité et on demande aux femmes d'être viriles spirituellement.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça veut dire
pour nos auditrices
de se mobiliser dans sa volonté, c'est-à-dire que la virilité est plutôt caractérisée sous le mode du combat et de l'itinéraire de la vie spirituelle vers Dieu. Et donc, c'est une marche vers Dieu qui demande du courage et une forme de virilité qui est aussi bien masculine que féminine. C'est-à-dire qu'on écrit, il y a Thérèse d'Avila, par exemple, pour la citer de nouveau, elle demande à ses sœurs d'être viriles. Et les auteurs spirituels qui écrivent aux religieuses, ils leur demandent d'être viriles dans leur vie spirituelle. Et aussi, d'un autre côté, on dit... cette épousaille mystique ou cette forme de ravissement en Dieu qui est très développée dans la spiritualité, c'est un fond plus féminin, c'est une expression plus féminine, et elle peut s'appliquer aussi aux hommes. Donc il n'y a pas de confusion des genres, mais on voit que dans la spiritualité, il y a cette expression masculine et féminine qui joue dans un dynamisme spirituel aussi, qui fait dépasser un peu cette question d'opposition des genres.
On est à quel siècle ?
Là, on est au 14e, 15e, 16e, en fait, on enjambe un peu les siècles.
Merci Père Jean-Baptiste Masson. À demain.
À demain.